accueil, à cette école de raison à laquelle vous nous conviez à l'occasion du 4e centenaire de la fondation du Carmel d'Angers. Bonsoir à vous tous et toutes. Effectivement, comme vous nous le disiez, Sainte Thérèse va nous guider ce soir dans un passage particulièrement important, c'est vrai. Tandis que se poursuit notre école de raison, en parcourant le livre du château intérieur, ce soir nous abordons les cinquièmes demeures. Alors, si vous vous souvenez d'un élément qui avait été donné au tout début de la présentation du château intérieur, au commencement de notre école de raison, ce livre du château intérieur, Thérèse nous y parle de l'aventure de l'oraison en parcourant d'abord trois premières demeures dans le château de notre âme, de notre cœur, où, au sujet de la prière, il est davantage question de ce que nous-mêmes nous mettons en œuvre. Nos efforts de recueillement, de méditation dans la prière, et aussi dans l'ensemble de la vie, les efforts que nous mettons en œuvre pour nous convertir, pour mettre en ordre notre vie. Et dans les trois dernières demeures du château intérieur, les cinquième, sixième, septième demeures, eh bien, Thérèse nous parle davantage de ce que Dieu opère en nous. Alors bien évidemment, ce que nous faisons nous, dans les trois premières demeures, nous ne le faisons jamais sans la grâce de Dieu. Et ce que Dieu opère en nous, dont Thérèse parle davantage dans les trois dernières demeures, cela ne se fait jamais sans le consentement de notre liberté. Mais voilà, à partir de maintenant, à partir des cinquièmes demeures, au sujet de l'oraison, et progressivement en fait dans notre vie entière, c'est davantage Dieu qui va prendre les rênes de notre vie. Ce que nous allons y vivre, ce que le Seigneur va nous donner d'y vivre, sera sans commune mesure avec nos efforts. Nous expérimenterons toujours plus que c'est la grâce de Dieu qui est à l'œuvre en nous et qui opère en nous de manière gratuite. Saint Jean de la Croix dirait « de manière passive ». Passive, c'est-à-dire que Dieu seul peut nous donner cette grâce, nous ne pouvons pas l'acquérir à la force du poignet par nos mérites. Mais bien évidemment, ce n'est pas de la magie. Alors, à nous, il nous importe de désirer cette grâce, il nous importe aussi de nous disposer à la recevoir. Que ce soit dans l'exercice spirituel de l'oraison et que ce soit aussi dans l'ensemble de notre vie chrétienne. Mais cette grâce, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cette grâce, c'est ce que Thérèse d'Avila appelle l'union. L'union de notre âme à Dieu. Notre union avec Dieu. Et justement, dans le premier chapitre des cinquièmes demeures, sur la petite feuille qui contient des extraits du château intérieur, c'est le premier des textes que vous avez sous les yeux, dans le premier chapitre de ces cinquièmes demeures, elle nous parle d'une grâce mystique singulière, de quelque chose qui lui est arrivé dans l'oraison, qui peut se produire dans l'oraison, qu'on appelle une grâce mystique. Vous savez, les grâces mystiques, c'est des phénomènes singuliers, qui arrive, qui n'arrive pas, alors Sainte Thérèse, elle, comme ça lui est arrivé, elle nous en parle. Et vous allez voir, tout de suite après, elle va nous dire que faut pas que ça nous fasse peur et que de toute façon, l'essentiel de l'union, l'essentiel de la sainteté n'est pas là. Mais bon, elle, ce n'est pas de sa faute, le Seigneur lui a donné ce genre de grâce, alors elle nous en parle. Voici ce qu'elle expérimente. Dans l'oraison, Dieu s'établit de telle sorte au plus intime de cette âme qu'en revenant à elle, car l'âme a vécu une sorte d'extase, en revenant à elle, il lui est impossible de douter qu'elle n'ait été en Dieu, cette âme, cette personne, et que Dieu n'ait été en elle. Impossible d'en douter. Cette vérité s'imprime si bien dans son esprit que des années se seraient-elles écoulées sans que Dieu lui ait renouvelé cette grâce, elle ne peut l'oublier ni douter qu'elle n'ait été en Dieu. De quoi nous parle-t-elle? Qu'a-t-elle expérimenté dans la prière? Eh bien, au cours d'une sorte d'extase, elle vit dans l'oraison une expérience vive qui lui fait percevoir, qui lui fait expérimenter que Dieu est en elle et qu'elle est en Dieu. C'est une grâce singulière et puis c'est une révélation d'une vérité de la foi. C'est la perception vive d'une vérité de foi. Il est vrai, nous le croyons, que Dieu est présent en nous. Thérèse nous en avait parlé déjà dans les premières demeures du château intérieur. Il est vrai aussi que, d'une certaine façon, nous sommes en Dieu. Rien de ce que nous vivons, nous ne le vivons en dehors de lui, en dehors de la relation avec lui. Eh bien, ce qui est une vérité de foi, dans cette grâce mystique, dans cette oraison d'union, l'âme en a une perception vive. Elle a le sentiment vif d'être plongée en Dieu et que Dieu est en elle. Lui en moi, moi en lui. Et nous dit Thérèse, cette expérience, cette oraison d'union, cette perception vive d'être unie à Dieu est indubitable et inoubliable. Quand bien même on ne l'aurait vécu qu'une seule fois, nous dit-elle, d'après son témoignage, cela est tellement vrai, cela est tellement profond, qu'on ne peut en douter et qu'on ne peut l'oublier. Alors, pourrions-nous dire à Thérèse, en lisant le château intérieur, « Bon, ben, très bien, vous avez vécu cette grâce mystique, il y a peut-être d'autres personnes qui la vivent, mais qu'est-ce que cela signifie sur le chemin de l'oraison? Quel enseignement pouvons-nous tous en tirer ?» Eh bien, pour nous expliquer l'effet de cette oraison d'union, de cette grâce singulière, dans le deuxième chapitre des cinquièmes demeures du château intérieur, elle forge une petite parabole, qui est l'un des textes les plus fameux du château intérieur. Elle nous dit, bien, pour vous faire comprendre ce dont il s'agit, je vais vous proposer une image, un symbole, c'est ça, presque une parabole de celle que Jésus utilise dans l'Évangile. Voyez-vous, nous dit-elle, l'âme qui a cheminé sur le chemin de l'oraison depuis le début du château intérieur, dans les trois premières demeures du château intérieur, elle ressemble à ces vers à soie que l'on pose sur une feuille de mûrier qui se nourrit de ces feuilles de mûrier et qui, à partir de là, tisse la soie pour construire une chrysalide, un cocon, à l'intérieur duquel ce vers à soie va s'enfermer. Eh bien, l'expérience des cinquièmes demeures, c'est comme quand le cocon s'ouvre et qu'à la place du vers à soie, il y a un papillon qui surgit. Cette petite parabole, c'est la parabole d'une métamorphose, d'une transformation. Thérèse veut nous dire par là l'effet de l'oraison d'union, l'effet de cette union à Dieu, c'est une transformation de notre être. Avant, nous étions comme un vers à soie, et maintenant, nous sommes comme un papillon. Quand on voit l'un et l'autre côte à côte, on ne croirait pas que le vers à soie un jour pourrait devenir papillon ou que le papillon a un jour été vers à soie. D'accord, mais cette parabole, cette image, ce n'est pas que de la poésie. Qu'est-ce que cela signifie? Deux choses. La première chose, c'est que la transformation dont il est question dans les cinquièmes demeures, c'est une pure grâce. C'est une pure grâce. De la même manière que on ne voit pas comment un vers à soie pourrait être, à la force du poignet, par une fabrication extérieure transformée en papillon, l'âme ne peut pas d'elle-même se donner cette grâce de l'union des cinquièmes demeures. C'est une pure grâce. Et puis, la seconde chose, eh bien, c'est que, il faudrait lire un petit peu plus longuement ce deuxième chapitre des cinquièmes demeures pour parler de cette métamorphose du ver à soie en papillon, de cette transformation qu'est l'union. Thérèse emploie des images d'ensevelissement, d'enfouissement, de mort, pour parvenir à une nouvelle naissance, à une vie nouvelle. Cela vous fait penser à quelque chose? Un ensevelissement pour une vie nouvelle? Une mort pour une autre vie? Ce sont des images, bien sûr, du mystère pascal. En fait, la transformation dont il est question dans les cinquièmes demeures, c'est recevoir dans sa vie, de manière concrète, existentielle, le bénéfice du mystère pascal du Christ. En quelque sorte, être plongé dans sa mort pour ressusciter avec lui. Mais en fait, me direz-vous peut-être, être plongé dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui, la plupart d'entre nous dans cette Église, nous l'avons certainement déjà vécu au jour de notre baptême. Et s'il y a parmi nous, je ne sais pas après tout, des catéchumènes ou des personnes qui désireraient recevoir le baptême, c'est ce qu'elles vivraient un jour au jour de leur baptême. Ceux parmi nous qui déjà sommes baptisés, au jour de notre baptême, nous avons déjà été plongés dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui. Eh bien, la grâce de l'union des cinquièmes demeures, en quelque sorte, c'est comme si la grâce de notre baptême se déployait d'une nouvelle manière. Non seulement que nous devenons conscients de ce que c'est qu'être baptisé, de ce que c'est que de vivre de la vie nouvelle du Christ, mais que nous sentons la grâce de notre baptême se déployer d'une manière toute nouvelle. Nous comprenons, grâce à cette image pascale de la métamorphose du ver à soie en papillon, que l'union dont nous parle Thérèse, ce n'est pas quelque chose de bizarre, ce n'est pas quelque chose de réservé à quelques privilégiés. C'est l'appel adressé à tous les chrétiens de prendre au sérieux la grâce de leur baptême et de recevoir du Seigneur cette grâce d'un déploiement dans leur vie de leur baptême. Mais, nous dit Thérèse, au début du troisième chapitre des cinquièmes demeures, peut-être que malgré mes explications dans le deuxième chapitre, avec cette parabole du ver à soie papillon, peut-être avez-vous encore une objection. C'est vraiment elle-même qui examine cette objection, ce n'est pas moi qui glose ou qui brode. Elle nous dit dans ce troisième chapitre, peut-être pensez-vous que cette grâce est réservée aux personnes qui reçoivent l'extase de l'oraison d'union dont j'ai parlé dans le premier chapitre. Eh bien, elle nous dit non, pas du tout. Il est possible de vivre de l'union à Dieu, il est possible de recevoir la grâce des cinquièmes demeures, quand bien même on n'a jamais vécu d'expérience mystique singulière telle que celle dont j'ai parlé dans le premier chapitre. Parce qu'en fait, précise-t-elle, l'important de ces cinquièmes demeures, la vérité de l'union de notre âme, de notre être avec Dieu, ce n'est pas de recevoir des grâces mystiques singulières. Dieu peut en faire la grâce à qui il veut, comme il le veut, mais l'essentiel n'est pas cela. L'essentiel, c'est que notre volonté soit unie à la volonté de Dieu. Regardez, c'est le quatrième texte qui se trouve sur la petite feuille que vous avez sous les yeux. L'union de notre volonté à la volonté de Dieu, c'est la l'union que j'ai désirée toute ma vie, nous dit Thérèse. Celle que je ne cesse de demander à notre Seigneur, c'est aussi la plus facile à connaître et la plus sûre. L'union, ce n'est pas d'avoir des extases ou des grâces mystiques singulières. Cela peut arriver, mais ce n'est pas ça le plus important. L'union, c'est que notre volonté soit uni à la volonté de Dieu. Mais évidemment, pouvons-nous nous dire comment est-ce que ma volonté va pouvoir être unie à la volonté de Dieu ? Eh bien, Thérèse nous répond dans le texte suivant, celui qui est un petit peu plus long, nous allons le lire pas à pas. Quelle est, pensez-vous, cette volonté de notre Seigneur ? Et oui, il est important de le savoir si nous voulons que notre volonté soit unie à la volonté de Dieu. Quelle est, pensez-vous, cette volonté de notre Seigneur ? C'est que nous soyons parfaites. Oui, c'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est que nous soyons parfaites de sorte que nous puissions devenir une même chose avec lui et avec le Père, comme lui-même en a fait la demande. Dans le chapitre 17e de Saint Jean, dans cette grande prière de Jésus à son Père, qu'on appelle la prière sacerdotale, parce qu'il se fait notre intermédiaire entre le Père et lui. Dans sa grande prière sacerdotale, Jésus demande pour nous, pour tous ses disciples, à son Père, qu'il soit un avec nous, que nous soyons unis. Pour reprendre le vocabulaire de Thérèse dans ses cinquièmes demeures, que nous vivions l'union, qu'il y ait une union entre nous. Pour l'atteindre, cette union, poursuit Thérèse, il n'est pas nécessaire que le Seigneur nous accorde de grandes délices spirituelles. Il suffit du don qu'il nous a fait de son Fils pour nous enseigner le chemin. Il suffit du don qu'il nous a fait de son Fils pour nous enseigner le chemin. J'espère que si nous nous arrêtons quelques secondes et que nous nous demandons, mais au fait, à moi personnellement, est-ce que Dieu a fait le don de son Fils ? J'espère que le plus rapidement possible, nous répondons oui. Oui, à chacun de nous, Dieu a fait le don de son Fils. Par la grâce du baptême, nous avons été plongés dans son mystère pascal. Nous sommes devenus participants de la vie trinitaire. À chaque messe, par l'écoute de sa parole, par la communion à son corps, Jésus se donne à nous. Dans tout sacrement, par la grâce de l'Esprit-Saint, il se donne à nous, il agit en nous. Donc, oui, à chacun de nous personnellement, le Fils de Dieu a déjà été donné. Donc, pour atteindre cette grâce de l'union, il suffit que le Fils de Dieu nous ait été donné, comme cela est déjà le cas pour chacun de nous. Alors, du côté de Dieu, tout est déjà fait. De notre côté à nous, il importe d'accueillir ce don. Dieu nous a déjà unis à son Fils. À nous, il nous appartient de correspondre à ce don. L'œuvre de Dieu en nous, il nous appartient d'y collaborer. Comment est-ce que nous allons y collaborer pour que soit toujours plus intime l'union de notre volonté à la volonté de Dieu ? Eh bien, Thérèse poursuit dans ce dernier grand paragraphe de notre petite feuille. Le Seigneur ne nous demande que deux choses, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est vers elles que doivent converger nos efforts. Si nous les accomplissons parfaitement, nous faisons sa volonté. Et par là même, nous lui sommes unis. Et oui, qu'est-ce que Dieu veut pour chacun de nous ? Saint Paul nous le dit dans la première lettre à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et connaissent son Fils Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu attend de chacun de nous concrètement pour nous faire vivre de cette union avec lui qu'il désire tant ? Que nous l'aimions lui et que nous aimions notre prochain. Jésus nous enseigne dans l'Évangile que toute la loi, les prophètes, se résument en ces deux commandements. Tous les commandements donnés par Dieu convergent et se résument en ces deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, c'est vers ces deux commandements, vers ces deux amours, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, que nos efforts doivent converger. Si nous les accomplissons parfaitement, nous faisons sa volonté et par là même nous lui sommes unis. Pour être sûr que nous ayons bien les pieds sur terre, Thérèse ajoute, le moyen le plus assuré selon moi de savoir si nous observons ces deux préceptes, de l'amour de Dieu et du prochain, c'est de voir quelle est notre perfection relativement à l'amour du prochain. Et oui, Saint Jean nous l'avait déjà dit dans sa première lettre. Celui qui croit aimer Dieu qu'il ne voit pas, mais qui n'aime pas son frère qu'il voit, est un menteur. C'est l'amour du prochain, la croissance de l'amour du prochain, qui est toujours le meilleur critère de vérification de notre croissance dans l'amour de Dieu. Alors, vous voyez, selon Thérèse, correspondre au don que Dieu nous fait de son Fils, c'est conformer notre volonté à la volonté de Dieu en mettant en œuvre cet amour de Dieu et cet amour du prochain. Et cela s'actualise, cela se concrétise de manière très simple tout au long de nos journées en le laissant conformer notre volonté à la sienne lorsque nous profitons de chaque occasion qui nous est donnée pour vivre de cet amour de Dieu et de cet amour du prochain. Au Carmel, nous avons un exemple splendide de cela, de cet amour de Dieu et de l'amour du prochain dans le très concret de la vie, dans la personne de Sainte Thérèse de Lisieux. Il y aurait 1000 exemples à prendre dans sa vie. J'en retiens un seul. Dans une de ses lettres, Thérèse de Lisieux écrit « Ramasser une épingle par amour peut sauver une âme. » Quel mystère! Ramasser une épingle, c'est-à-dire faire un geste très simple et ordinaire. Voilà. Mais faire cela par amour, ramasser une épingle, ça n'a jamais sauvé personne. Hein. Ramasser une épingle par amour. Autrement dit, faire ce qui est à ma portée, que ce soit mon devoir d'État, les services, les travaux qui me sont confiés, mais aussi toutes les petites choses supplémentaires que je peux faire au long de la journée, les faire par amour. C'est-à-dire me servir de tout ce qui est à ma portée pour reconnaître qu'à chaque instant, Dieu est là, me tend la main et me dit « Veux-tu faire cela non seulement de façon banale et superficielle, mais par amour ? Veux-tu profiter de tout ce qui est à ta portée pour t'unir à moi dans l'amour. Alors, ta volonté sera toujours davantage unie à ma volonté, à moi, le Seigneur. Et alors, tu grandiras dans l'union avec moi. » Alors, peut-être que si nous voulons résumer un petit peu ce que Thérèse d'Avila nous enseigne ce soir dans les cinquièmes demeures du château intérieur, je dirais deux choses. D'abord, au sujet de la prière, au sujet de l'oraison. Vous voyez, à la lumière de ce qu'elle nous enseigne ce soir, la pure grâce de la transformation, du ver à soie en papillon, nous comprenons qu'il est normal que notre oraison, notre recueillement, se simplifie au fur et à mesure que nous avançons sur le chemin. Alors nous allons continuer à nourrir notre vie spirituelle, avant tout par la méditation de la parole de Dieu, de l'Écriture. Nous allons continuer au début de nos temps d'oraison à nous préparer à vivre cette rencontre intérieure avec le Christ. Au début de l'oraison, nous serons attentifs à nous mettre en sa présence. Et puis, ensuite, nous ne chercherons pas tant à faire des choses, à méditer, à réfléchir, à parler, qu'à nous mettre à la disposition du Seigneur qui est là. Une prière qui se simplifie et qui petit à petit devient tout simplement un « me voici ». Parle Seigneur, ton serviteur écoute, comme dirait le jeune Samuel dans le chapitre 3 du premier livre de Samuel. Ou un « je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », comme la Vierge Marie au jour de l'Annonciation, une simple mise à disposition de notre être pour le Seigneur. Et puis, la seconde chose que je dirais, pour résumer un petit peu ce que Thérèse nous dit ce soir, c'est dans l'ensemble de la vie. Dans l'ensemble de la vie, eh bien, nous demanderons la grâce de l'Esprit-Saint pour qu'il nous aide à discerner la présence agissante de Dieu dans nos vies et pour y collaborer. Dieu est déjà présent en nous et au milieu de nous. Dieu est déjà agissant en nous et parmi nous. Que l'Esprit-Saint nous donne la grâce de le reconnaître, d'y être attentif, de le discerner. Que ce soit dans des situations où le Seigneur nous pousse, nous encourage, et où là nous allons travailler avec lui, que ce soit dans des situations où le Seigneur nous titille pour nous convertir, pour nous aider à aller plus loin. Et là, nous allons collaborer à cette œuvre de conversion, à ses efforts, avec sa grâce. Alors que ce soit lorsqu'il nous pousse pour nous encourager, que ce soit quand il nous titille pour nous convertir, nous serons toujours plus sensibles à sa présence agissante et nous nous efforcerons d'accompagner l'œuvre de la grâce, de collaborer à l'œuvre de la grâce en nous. Voilà un petit peu, chers amis, ce que je voulais vous dire ce soir, ou plutôt ce que je voulais laisser Thérèse nous dire ce soir au sujet de l'union des cinquièmes demeures du château intérieur. Prenons quelques instants, si vous voulez bien, pour recueillir un petit peu ce qui nous a marqué, ce qui nous intéresse, ce qui nous questionne ce soir. Et puis nous pourrons, si vous le voulez bien, pendant une dizaine de minutes, un petit quart d'heure, avoir un temps d'échange s'il y a l'une ou l'autre question qui se pose. Commençons par recueillir un petit peu ce que nous avons entendu ce soir. Est-ce que l'un ou l'autre voudrait prendre la parole pour une question, que ce soit une précision, un éclaircissement ou un approfondissement sur ce dont nous avons parlé ce soir ? Un micro à notre disposition, tout au fond s'il vous plaît, merci.
Quand vous avez parlé du cocon avec le papillon, je me demandais concrètement comment ça se voit, je veux dire qu'on est passé à l'état papillon.
Merci, votre question est importante. Quels sont les effets de cette transformation ? Alors, c'est vrai que nous aurions pu citer d'autres passages, notamment du troisième chapitre des cinquièmes demeures que vous pourriez aller voir sur ce sujet-là, où Thérèse prend des exemples concrets des effets de cette transformation. Par exemple, de mémoire, certains effets dont elle parle, bien ça va être un décentrement de soi-même, un oubli de soi-même, une capacité nouvelle à être davantage attentif à ce qui est le bien d'autrui que la recherche de son propre bien. Un autre exemple qu'elle prend, c'est un nouveau zèle pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Travailler pour l'Église et avec l'Église. Je me dis, nous pouvons prendre aussi mille et un exemples de notre vie des expériences peut-être que nous avons déjà vécues, parce que c'est pas parce qu'on est entièrement, c'est pas parce qu'on n'est pas encore, peut-être, je ne sais pas, entièrement établi dans les cinquièmes demeures, qu'on ne peut pas déjà vivre de manière sporadique des grâces qui ont à voir à ce dont Thérèse nous parle ici. Vous voyez, je pense par exemple à des situations de nos vies où l'on éprouve des enfermements, des dépendances, ou bien des situations de fermeture par rapport à d'autres personnes, un pardon que l'on n'arrive pas à donner. Et puis, il nous arrive d'expérimenter parfois, eh bien, voilà, cette situation qui a été si bloquée pendant si longtemps, cette personne avec qui la relation était si dure. J'avais pourtant fait tant d'efforts de réconciliation, ça n'a jamais marché. Là, nous avons pu nous donner un pardon mutuel. Et ça nous arrive, n'est-ce pas, de nous dire, ça m'a vraiment été donné. Voilà, ça m'a vraiment été donné. Bien, je crois que c'est des exemples qui correspondent à ce dont Thérèse parle ici dans l'union, et où on se rend compte qu'il y a une transformation qui est à l'œuvre en nous et qu'on est déjà un petit peu plus papillon que ver à soie.
Une petite question. Est-ce que cette grâce d'union peut être une étape pour passer à une étape nouvelle, ou alors peut-être expérimentée par petits bouts de temps en temps?
Alors, je connais au moins une personne qui l'a vécu par petits bouts de temps en temps, jusque ça soit une étape nouvelle, c'est pas moi, c'est Thérèse elle-même. Voilà. Thérèse, au début de sa vie religieuse, a vécu des grâces d'union. Elle en parle dans son autobiographie spirituelle, Le Livre de la Vie, mais pour différentes raisons, des circonstances de sa vie, son chemin de conversion personnelle qui a encore pris du temps, de nombreuses années, eh bien, ces grâces-là ne se sont pas enracinées profondément dans son cœur. Et c'est que de nombreuses années après, qu'elle a pleinement répondu à la grâce de Dieu et que c'est vraiment devenu une nouvelle étape. Et je crois que dans nos vies, d'une manière ou d'une autre, ça se passe aussi souvent comme ça. Voilà, d'une certaine manière, goutte à goutte, de manière sporadique, le Seigneur peut nous donner des grâces de l'ordre de l'union, de cette transformation dont nous parlons ce soir. Et puis, il peut y avoir à certains moments une grande étape, un grand passage, où là, c'est pas simplement qu'on a reçu un petit peu quelques gouttes, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle étape de notre vie spirituelle, comme une nouvelle vie qui s'ouvre pour nous. Et vous voyez, votre question, elle est aussi importante en écho avec ce que Thérèse nous avait dit dans les premières demeures. Ne vous imaginez pas le château intérieur comme composées de demeures les unes après les autres, où il s'agirait de parcourir le chemin, première étape, maintenant c'est fini, je passe à la deuxième étape. Thérèse disait, non, circulez librement dans le château intérieur, montez, descendez, allez à gauche, à droite, il y a de ça. Des fois, on entre sans nous en rendre compte dans les cinquièmes demeures, mais on n'y reste pas longtemps. Voilà. Et puis, peut-être qu'ensuite, chemin faisant, notre conversion, notre chemin de vie spirituelle s'approfondissant, s'enracinant, eh bien, notre centre de gravité est dans cette demeure et nous recevons la grâce de l'état d'union de manière plus durable.
Merci, j'ai encore une autre question.
Je vous en prie.
Quand une personne expérimente cette oraison d'union avec le Seigneur, est-ce que c'est une étape, par exemple dans l'oraison, au début, donc elle passe par l'état de recueillement, après, voilà, etc. Ou alors c'est tout d'un coup?
Comme dit Thérèse dans les quatrièmes demeures, Dieu est libre de donner ses grâces comme il veut, à qui il veut, quand il veut. Voilà. Mais il est vrai que généralement, la personne qui s'exerce à l'oraison passe plutôt d'abord par l'oraison de recueillement, dont il est question dans les trois premières demeures, puis connaît une simplification de son oraison qui a à voir avec l'oraison de quiétude, dont Thérèse a parlé dans les quatrièmes demeures, puis expérimente ce qui est de l'ordre de l'union, chacun à sa manière. Vous voyez, l'union, Thérèse l'a expérimenté par le moyen de cette oraison plus extatique du premier chapitre des cinquièmes demeures. D'autres personnes expérimenteront l'union d'une autre manière, mais en tout cas, c'est vrai que, même s'il n'y a évidemment pas de schéma préétabli et fixé, disons que l'épure de l'expérience spirituelle est plutôt recueillement, quiétude, union. Les grands repères, les grandes balises sont comme cela. Je dis volontiers grands repères, balises, parce que vous voyez, ce n'est pas un schéma préétabli, des cases dans lesquelles il faudrait entrer, mais n'empêche qu'il y a des grandes lois de la vie spirituelle. Voilà, donc je dirais que l'épure de la vie d'oraison suit plutôt cette progression. Recueillement, quiétude, union. Trois premières demeures, quatrième demeure, trois dernières demeures. Est-ce qu'il y aurait encore une prise de parole, une question, une intervention ? Allez-y.
Je voudrais juste vous demander sur la nature de l'union, est-ce qu'elle est affective ou elle est dans l'absence négative comme Maître Eckhart?
Alors, votre question est importante. Hein. Pour Thérèse, l'expérience de l'union des cinquièmes demeures, effectivement, est plutôt du côté de l'union positive, voire éprouvée ou en tout cas discernée, parce que ce n'est pas forcément un sentiment. Et effectivement, Thérèse n'est pas familière, elle, du langage de la théologie négative, de la théologie apophatique, comme Eckhart ou d'autres. Quelqu'un comme Saint Jean de la Croix serait plus familier de ce langage-là. Je ne sais pas si l'année prochaine nos sœurs vont nous offrir une école d'oraison avec Saint Jean de la Croix. Mais c'est... Voilà. Donc, pour répondre à votre question, non, Thérèse ne parle pas avec ce langage de la théologie négative. Même s'il est vrai que, par exemple, le mois prochain, lorsqu'il sera question des sixièmes demeures, Thérèse parlera de l'expérience de la nuit, de l'absence de Dieu, mais c'est autre chose que ce dont vous parlez. Est-ce qu'il y aurait une dernière intervention ? Nous allons nous préparer à vivre maintenant ce temps d'oraison.